Jean Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Son premier roman, Tram 83, avait propulsé ce natif de Lubumbashi sur les devants de la scène littéraire. C'était il y a 6 ans. Depuis, Fiston Mwanza Mujila a multiplié les projets littéraires, les scénarios, les performances poétiques et collaborations avec plasticiens, musiciens, réalisateurs, metteurs en scène. Et le voici de retour avec son nouveau roman. Comme le premier, il déborde d'énergie et de vitalité. Un livre ancré, cette fois, dans le Zaïre de l'époque Mobutu. Un roman choral et chorégraphique, peuplé de personnages hauts en couleur, qui inventent leur vie à travers la magie du réel métissée par la colle, la débrouille et un imaginaire débridé. La danse du vilain de Fiston Mwanza Mujila est paru aux éditions Métellier et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fiston Mwanza Mujila.
Bonjour monsieur.
Votre récit aussi entre deux villes, votre ville natale de Lubumbashi au Katanga, on n'est pas très loin de la frontière avec la Zambie, c'est là que se déroule l'essentiel de l'action. Et puis Lunda Norte en Angola, pas très loin cette fois-ci de la frontière congolaise, ou plutôt zaïroise, puisque ça se passe à l'époque de Mobutu, à l'époque où la République démocratique du Congo actuelle s'appelait le Zaïre. Et le point commun entre ces deux villes, c'est la mine de cuivre côté katangais, et puis mine de diamant côté angolais. La mine, c'est un univers éminemment romanesque.
Ouais, je pense que déjà quand on est créseur, on est mineur. Moi, je préfère parler, utiliser le jargon, le terme créseur, parce qu'il y a une forme de quelque chose de l'ordre du mécanique, de l'ordre de la recherche, de l'ordre d'une certaine masculinité, d'une... Il y a une violence dans créseur parce que c'est des gens qui creusent parfois à main nue. Et donc, moi, je dis, c'est un thème littéraire, même en littérature française, il y a la question des ouvriers, de la mine chez Zola. Et donc, parce que simplement les créseurs, quand ils sont dans une mine, ils s'inventent une généalogie, ils s'inventent une vie parce que c'est des gens qui arrivent de partout et ils ont besoin de références. Des références culturelles, mais également de références religieuses. Donc voilà, parce que c'est un travail qui rime avec la mort, parce que ces gens meurent chaque jour. Quand vous entrez dans un trou, vous ne savez pas si vous allez en sortir vivant ou la tête écrasée.
Il y a effectivement des gens qui arrivent de partout dans cette mine qui se trouve en Angola avec beaucoup beaucoup d'ambition. Ils espèrent trouver le minerai qui va leur apporter la fortune, ces Congolais exilés en Angola. Il y a eu à l'époque du Zaïre, Fiston Mwanza Mujila, une vraie ruée zaïroise vers le diamant.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, il y a eu au Congo une crise sociopolitique qui a poussé la plupart de jeunes gens à tenter leur chance, donc aller se rendre, ont essayé de se rendre en Europe, mais c'est qu'ils pouvaient pas. L'Angola est devenu une alternative. Donc ils sont allés en Angola chercher donc de l'argent, creuser, chasser, traquer la pierre, et ils sont devenus presque à force de euro mythiques, parce qu'il y a ceux qui revenaient parlaient de l'Angola d'une manière assez mythique, parce que l'Angola était en pleine guerre civile et donc il n'était pas facile de se rendre là-bas.
Oui, d'autant que les mines étaient aussi des sources de financement pour les différents mouvements angolais.
Oui, évidemment, parce que pour faire la guerre il faut avoir de sous, donc les mines du côté de par exemple de l'UNITA, du docteur Jonas Savimbi, ont financé la guerre.
Alors, s'il y a une personne qui peut parler des mines de diamants en Angola, de l'appétence des Congolais pour l'argent et pour le diamant, de la contrebande aussi qui existe entre le Zaïre et l'Angola, c'est bien Chamwena, qui est surnommée la Madone. C'est un personnage féminin absolument magnifique. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce personnage, Fiston Mwanza Mujila?
Ce personnage m'a été inspiré en partie par ma grand-mère, qui était une femme exceptionnelle. Je ne l'ai jamais vue sourire. Et ben voilà. Et quand j'ai commencé à travailler sur le roman, je pensais beaucoup à elle. Et donc pour moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Et puis voilà, je suis partie là-dedans. Et puis je commençais à faire des recherches sur sur la femme en Angola. Et je me suis rendu compte que c'était pas seulement les hommes qui y allaient. Il y avait des femmes qui y allaient et qui déployaient des stratégies pour s'en sortir, pour tenir la dragée haute. Par exemple, s'est mariée et puis voilà, est divorcée à leur retour à Kinshasa. Et donc cette Chamwena pour moi est partie de l'image de ma grand-mère, mais en même temps j'essayais de creuser, parce que tout simplement les creuseurs ont presque tous ils vivent dans une spiritualité.
Oui, et c'est vrai qu'elle a un charisme absolument extraordinaire, cette Chamwena. Alors, on se pose beaucoup de questions sur elle, parce qu'elle parle énormément. On a l'impression qu'il y a toute une petite cour comme ça qui gravite autour d'elle. C'est une conteuse hors pair, c'est une mémoire vivante. Et en même temps, elle apparaît quand même très vite comme affabulatrice, voire mythomane. On se demande toujours si ce qu'elle raconte est vrai ou pas.
En fait, pour moi, je me dis qu'elle parle à partir de sa propre subjectivité, et donc c'est l'histoire qui est écrite ou dite par le bas. Pour moi, ce qui est important, c'est de camper ce personnage-là qui vit dans la marge, qui vit dans la poisse, qui vit dans un entre-deux. Et Chamwena, pour moi, c'est un personnage assez intéressant pour essayer de canaliser toutes les aspirations de ces gens qui n'ont pas de voix, de ce sans voix, de ces gens qui forment en soi une peuplade sans nom.
Et c'est elle qui va accueillir à Lunda Norte, donc à la frontière entre l'Angola et le Zaïre, un jeune homme nommé Molakisi, venu tenter sa chance, chercher fortune en Angola. Son arrivée est assez mouvementée. Il ose interrompre une péroraison de la Madone, et dans la foule, quelqu'un le traite de coronavirus. Alors là, on se dit, petit clin d'œil à l'actualité, vous l'avez rajouté ?
Mais je l'ai rajouté parce que... Pour moi, je voulais avoir un texte intemporel. On est dans cet Angola mythique avec Chamwena, mais on est dans une certaine contemporalité, une certaine réalité avec parce que le travail de la mine est une réalité, un phénomène perpétuel. Voilà, pour moi, c'était important de pouvoir ouvrir le champ de possible, ouvrir le texte, ouvrir l'imaginaire avec ce personnage et puis avec cette multiplicité de lieux, multiplicité aussi de la musique, multiplicité de points de vue.
Oui, et c'est vrai qu'on sourit hein, quand on lit coronavirus sur votre plume dans le Zaïre de ces années-là. Et donc ce coronavirus, hein, si j'ose dire, s'appelle donc Molakisi. Alors il est moche, il est vilain, c'est un petit voyou qui a fui la maison de ses parents à Lubumbashi. Et il a été le protecteur de Sanza, qui lui est resté hein, dans les rues de Lubumbashi. Au début, il a eu beaucoup de mal hein, à se faire accepter, Sanza. Il a fallu qu'il se défende hein, dans la rue, en particulier contre les inspecteurs des finances. Alors, qui c'est ces inspecteurs des finances ?
C'est-à-dire qu'on tombe dans la rue, on est victime des anciens, des ancêtres, c'est-à-dire ces enfants qui sont dans la rue depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que dans la rue, il y a une hiérarchisation. Pour gagner en rang, il faudrait d'une part y vivre de nombreuses années, ou d'autre part accompli des exploits extraordinaires. Et du coup, il est pris à partie par ses inspecteurs s'ils vivent dans la rue depuis longtemps et qui lui demandent de payer sa pension alimentaire, de payer le taxe, de payer un passeport. Parce que c'est pour ce jeune, la ville de Lubumbashi est une propriété privée personnelle.
Et Sanza va finir par gagner le respect des autres gamins, comme l'anarchiste, le blanc, ou Ngungi, le chef de cette bande, la bande du parvis de la poste de Lubumbashi. Eux aussi, un petit peu comme Chamwena la Madone, s'inventent des vies extraordinaires. Nous sommes page 75 de votre roman.
La rue nous appartenait. Elle était dans notre escarcelle. Elle était notre propriété privée, notre chose, notre marchandise. Nous la remplissions de nos rêves, des rêves décarcassés, des rêves privés de mazout, des rêves sans tête ni épine dorsale. La nuit, l'alcool et la colle nous donnaient des ailes, nous transportaient au-delà des fleuves et des mers, et nous atterrissions par le plus grand hasard dans des mégalopoles inconnues. Le Caire, Kinshasa, New York, En compagnie de nos épouses ainsi que de nos époux, bras dessus, bras dessous, affublés de nos manteaux de fourrure, de blousons en cuir et de pulls en cachemire, coulons à verse des bouteilles de champagne, heureux comme 10. Puisque nous y sommes, je dis ceci, nous ne nous accaparions pas illégalement des breloques d'autrui. Nous nous servions à la source comme des bons colons. De la malversation ? Assurément pas. Comment aurions-nous pu tordre le cou à la fin si nous ne nous servions pas à la source ? D'ailleurs, les mêmes gens qui se plaignaient de nos rapines, dans l'heure qui suivait, regrettaient, versaient des larmes de crocodile, secouaient la trogne quand ils tombaient sur le cadavre d'un mioche dans les rues asphaltées du centre-ville. À bien y penser, nous n'appartenions plus au Katanga et n'étions ni de loin ni de près concernés par l'union minière et ses débiles ajustements structurels. Nous étions des princes, des rois et des marquis sans lendemain, aiguisés par la colle qui nous donnait des idées, la colle qui pourvoyait à l'inspiration, la colle qui stimulait les rêves et toujours la colle qui nous permettait de tenir la dragée haute dans ces nuits infestées d'inspecteurs de finances, de militaires mégalomanes, de vendeurs d'organes génitaux et autres quêteurs de sang à des fins sacrificielles.
Fiston Mwanza Mugila, est-ce que ce livre c'est un hommage à la force de l'imagination ?
Bien entendu, aussi à la force de la littérature qui est omniprésente en République démocratique du Congo, à travers les Banalunda, ces Congolais qui vont chercher vie en Angola, mais aussi ces gens qui vivent dans la rue, ils sont obligés, contre vents et marées, à leur corps de fondant, de se créer de mythes, de se créer une vie de pacotille. Et pour moi, c'est des personnages qui me permettent de localiser le français, d'utiliser le français comme la langue de ma mère, comme la langue de ma grand-mère, Julienne Momonza, qui me permet d'avoir de faire de cette langue-là une langue tribale, une langue personnelle, de transformer la langue, de faire de la langue une pierre, de creuser dans la langue.
C'est pour cette raison que vos personnages, quand ils ont un peu d'argent, vont au cinéma et qu'ils vont voir notamment des films français. Ça les intéresse plus que les films congolais.
Ouais, il faut dire que le cinéma africain est né en réaction au cinéma colonial qui donnait une image assez paradoxale de l'Afrique, Afrique de savane, Afrique de rêve, Afrique de dans ce cinéma là il y a rien ne se passe, c'est dire que dans le cinéma colonial il y a cette infantilisation du personnage de l'homme africain, et le cinéma africain de le départ a été une réponse à ce cinéma là mais pour nous, par exemple, moi, dans mon enfance, je me sentais beaucoup plus concerné par attiré par d'autres cinémas que par les cinémas africains, parce que je viens d'une ville minière, et puis il y a des choses qui s'est passé autour de moi, la dictature de Monsieur Mobutu, il y avait la rumba, et moi je voudrais ce cinéma là où les gens se cassent la gueule, les gens dansent, les gens chantent, et puis quelque chose de choses se passe sur scène, parce qu'on vit dans un pays où il y a des choses qui se passent, et puis tout est éphémère. Et moi, je m'attends à un cinéma où tout est éphémère. Voilà.
On veut la réalité, les mines, la colle, la danse du vilain, dit un de vos personnages. Alors, cette danse qui donne son nom à votre roman, c'est une forme de catharsis ?
Ouais, effectivement, c'est une forme c'est une forme de jouissance, de rédemption, mais en même temps, c'est ça fait partie de la culture. Je pense que dans toutes les cultures, il y a il y a un rapport à la musique, un rapport à l'art, à la culture, et à la danse. Par exemple, du peuple d'où je mane, je veux pas le terme ethnie, je dis plus peuple. Il y a beaucoup de danses, par exemple la danse du Chichumbi, qui consiste à s'exorciser, à renouer avec la nature, à renouer avec la terre, à renouer avec les dieux. Et pour moi, la danse du vilain participe de cet ordre-là.
La danse du vilain, c'est le point d'orgue des soirées endiablées d'un établissement de Lubumbashi, un établissement du quartier de Kamalondo. Ouais. Cet établissement, il s'appelle le Mambo de la fête. C'est un endroit qui a existé, qui continue d'exister, ou vous l'avez inventé de toutes pièces?
Je l'ai pas inventé parce que au pays, j'ai des grands-parents qui exerçaient comme barman et donc je me suis inspiré un peu de ça, et puis je me suis inspiré de ce qui se passe autour de moi, en Autriche où je vis, même à Kinshasa quand j'y vais. Et donc pour moi, j'avais besoin de créer un bar qui soit un espace tout le monde. Donc voilà, ouais, j'ai puisé dedans.
Voilà. Et le Mambo de la fête, c'est aussi le titre d'une chanson. Une chanson japonaise que vous connaissez très certainement, signée Misora Ibari. En 1951, on l'écoute, on en parle dans un instant. Misora Ibari, Mambo de la fête sur RFI. Alors là, ça mérite quand même de lourdes explications. Fiston Mwanza Mujila, comment est-ce que une chanson japonaise des années 50, certes, ça quand même a pu donner son nom à un bar, à une sorte de boîte de nuit de Lubumbashi par l'intermédiaire, par le miracle de la littérature?
Mais il faut dire que je suis un inconditionnel de Papa Wemba, et je découvert le Japon, j'ai appris à aimer les Japon à travers Papa Wemba, qui a été qui a eu aussi beaucoup d'affection pour le Japon. Je me souviens d'un de ses concerts au Japon qui a fait beaucoup d'encre salie du fait qu'à son départ il y a des orchestres qui sont nés au Japon. Il y a l'autre lien de Papa Wemba avec le Japon, c'était la SAP. À la SAP du Congo Brazzaville, on préfère le costume cravate. Papa Wemba préférait les anges japonaises, quelque chose qui relève de l'impérial, de la démence, de ouais. Mais et donc il y avait Papa Wemba, avait cette envie là, ce lien là avec le Japon. Et puis pour moi c'était un point de départ pour créer cette affinité-là.
Oui, et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil aussi, parce qu'il se trouve que le personnage de la Madone est fan absolu de Misora Ibari.
Elle est fan, mais en même temps, le personnage de la Madone vit en Angola et au Japon au même moment. Dit, ouais. Et donc, pour moi, c'était intéressant de pouvoir créer de pouvoir faire de ce personnage-là un esprit, parce qu'il vit dans deux espaces, il vit dans deux mondes. Il est un peu la divinité. Il lui-même dit qu'il est Dieu. Ouais, voilà.
Alors, le cœur de votre premier roman, Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, c'était aussi un lieu de rencontre. C'était à la fois un bar, un restaurant, une boîte de nuit, un bordel, où toute la ville-pays, hein, c'est comme ça que vous l'appeliez dans le livre, avait l'habitude de se retrouver. Est-ce que le Mambo de la fête de Lubumbashi et Tram 83 sont des concurrents?
Mais je pense pas que je pense que ces deux textes, c'est complète, mais vit aussi séparément. Autant je n'ai rien à voir avec le personnage de Lucien de Tram 83, autant j'ai d'affinités, j'ai beaucoup en partage avec Franz, parce que c'est un écrivain qui débarque en Angola et qui veut écrire sur l'Angola, sur le Congo, qui veut faire de la littérature, mais se trouve dans une situation complexe qui est liée à sa légitimité. Voilà, moi je vis en Autriche, je suis aussi dans ce rapport-là. Je rêve d'écrire un roman avec des personnages blancs, autrichiens, et il y a cette légitimité d'écrire en allemand, j'écris aussi en allemand. Et donc pour moi, ce sont des questionnements qui font que je m'identifie à ce personnage-là. Mais oui. Les deux romans, peut-être c'est complète, mais chacun vit sa vie.
Mais c'est vrai que là où on est vraiment au cœur d'un débat très important actuellement, c'est celui sur l'appropriation culturelle. Hein. Oui. Je cite un extrait du livre, hein, de la danse du vilain, c'est vous qui écrivez à propos de Franz. Justement. C'est très ardu pour lui d'être un écrivain blanc et de devoir écrire sur l'Afrique. C'est, je pense, écrire dans une mare de clichés. Il doit composer avec des personnages qui lui échappent. A-t-on le droit d'entretenir des personnages qui n'ont pas la même expérience mémorielle que soi ? Vous vous posez la même question, effet miroir.
Ouais, parce que j'ai toujours pensé, je vis à Graz depuis 11 ans.
Donc en Autriche, oui.
Je travaille, bon, en fait, j'imagine, j'ai un projet de roman et je voudrais, créer des personnages qui ont vécu à l'époque de l'Allemagne nazie. Et c'est pour cette réalité de légitimation. Si j'ai...
Mais vous répondez quoi alors à cette question? Est-ce que vous avez tranché la question?
Mais non, moi je me dis, je suis encore en train de réfléchir sur la question parce que j'ai pas la... ce qui s'est passé pendant la période de la low cost, je me dis... quelle légitimité j'ai à puiser dans cette source mémorielle qui ne m'appartient pas, qui ne me concerne ni de près ni de loin.
Et donc votre décision n'est pas prise. Vous ne savez pas si vous allez franchir le pas.
Mais je pense qu'il y a des stratégies. C'est que je peux créer des personnages à la croisée de chemin africains, parce qu'il faut dire que dans cette Allemagne-là, il y a eu de Noirs qui ont aussi participé, qui ont été victimes de cette souffrance.
Mais alors justement, moi je vais renverser la question, puisqu'on parlait d'effet miroir à l'instant. Est-ce que pour vous, parce que tout le monde ne pense pas forcément à la même chose, mais pour vous, Fiston Manza Mojila, est-ce que un blanc européen peut aujourd'hui écrire un roman sur l'esclavage, par exemple?
Moi je pense qu'il faudrait. C'est une très belle question, mais moi je pense que c'est tout. Tout dépend de chaque personne, c'est le rapport que la personne a avec cette thématique-là,
son sujet, son histoire personnelle,
aussi son point de vue. Pour quelqu'un qui écrit pour de raisons mercantilistes, c'est pas la même chose que quelqu'un qui écrit pour mettre en exergue une partie cachée de l'histoire. Je pense que ça dépend de sensibilité, mais ça dépend de point de vue, mais ça dépend aussi de la finalité du texte. Et donc, moi, je me dis que ça dépend aussi du lieu d'énonciation du discours. Moi, je vis en Autriche depuis 11 ans. Je vais faire mes courses là où les écrivains autrichiens font leurs courses. Je fais partie d'un écosystème littéraire de langue allemande. Et donc, je pourrais m'autoriser cette démarche-là parce que j'ai un lien avec le pays. Mais tout dépend maintenant de la finalité. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est juste de réflexion en tant qu'écrivain, en tant que poète.
Et est-ce que l'on regarde, est-ce que l'on comprend différemment, est-ce que l'on comprend différemment son propre pays, en l'occurrence pour vous, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, quand on vit en exil, quand on a ce recul géographique et un peu culturel aussi, quand même?
Moi, je pense que j'ai beaucoup appris en vivant en Autriche parce que j'ai un regard distancié, j'ai beaucoup de recul par rapport au Congo, à ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à l'histoire coloniale avec la Belgique ou la France. Je pense que cette distance a beaucoup influé sur ma poésie, qui était au départ une poésie assez directe, une poésie qui parlait au nom du Congo. Là, je parle dans ma poésie, il y a la primauté du jeu, mais qui est un jeu pluriel, parce que je parle de moi, et mais je parle aussi de ma grand-mère. C'est un jeu qui inclut ma famille, ma petite généalogie. Et donc, je pense que c'est cette distance qui m'a permis d'être dans le jeu, de parler de moi-même, je prends du recul, parce que c'est un thème brûlant, et les dangers, c'est pas faire de littérature, mais c'est faire du journalisme en reprenant aveuglément une thématique parce qu'on veut parler de l'histoire du pays. C'est ce qui fait que, par exemple, dans mon roman, je parle du Congo, mais je fais pas de l'histoire la matière principale. C'est des invitations à ouvrir les vestiaires, à ouvrir les archives, à des centres dans lesquels, dans le grenier. Et travailler avec sa mémoire, c'est des invitations. Je ne fais pas de l'histoire, je n'écris pas de romans historiques. Moi, c'est des invitations parce que j'ai cette distance qui me permet d'être dans un confort.
Vous écrivez, l'exil libère et déleste en définitive de la pesanteur des traditions et du corset étroit des accointances. Est-ce que l'exil vous a rendu plus libre?
Oui, je pense, oui, l'exil, parce que vous savez, l'exil m'a rendu, m'a permis d'avoir un regard sur mon pays que je pouvais pas avoir si j'étais au Congo, regard sur ma famille, regard sur le monde. Je pense que l'exil libère.
Les mama, coco les colo pimba. Wanyo mile, wamba pale, langero ato e colo conga mi colo. Yo, yo que mania. Kelembude, mude lo longo, viva ade, yo que mania. Et allez au Kendo Kayami, à ce qu'on le colo tatu, le natamatu, et allez mama, ou le colo pimba.
Anna Lengo, Papa Wemba, dans Vous m'en direz des nouvelles sur RFI avec Fiston Mwanza Mujila qui publie La danse du vilain aux éditions Métellier. Alors vous évoquiez vous-même hein, tout à l'heure Papa Wemba, qui se produit hein, d'ailleurs sur la scène du Mambo de la Fête, hein, donc l'épicentre de votre récit. Papa Wemba qui, comme d'autres musiciens congolais, vous ont accompagné dans l'écriture du roman.
Oui, il y a Papa Wemba qui est pour moi une référence en termes de parcours musical, culturel, parce que Papa Wemba a toujours été un précurseur. Il a toujours été quelqu'un qui a su se régénérer. Il a eu à chanter avec les musiciens de sa génération et puis les musiciens de qui étaient plus jeunes que lui. C'est un musicien qui avait cette facilité d'avoir plusieurs orchestres qui est allé au Japon. et qui a eu à faire la pluie et le beau temps. Et donc pour moi, c'est un modèle qui, pour moi, c'était important de l'avoir dans mon texte, mais d'avoir aussi des grands noms de...
Il y en a d'autres,
hein, de la rumba, comme Tabouley.
Par exemple, qui est effectivement aussi cité. Vous les avez écoutés en écrivant, en rédigeant votre texte?
Je les ai écoutés, mais en même temps, je suis petit-fils de barman, donc c'est la musique qui m'accompagne depuis des années. Mais aussi, il y a aussi j'écoutais beaucoup aussi le jazz sud-africain, qui est un jazz excellent parce que c'est un mélange du jazz standard et de la musique ou des musiques sud-africaines traditionnelles, où il y a une récurrence par exemple du chant. Par exemple, vous prenez Doudou Pokwana, qui est un excellent saxophoniste, mais aussi un bon chanteur. Et donc pour moi, je m'inspire aussi du jazz sud-africain.
C'est-à-dire que le jazz et la rumba ont non seulement nourri votre inspiration, mais aussi votre style, votre écriture, le rythme de vos mots et de vos phrases?
Oui, c'est ça. J'écris en écoutant de la musique, mais aussi je joue aussi comme j'ai un groupe de jazz à Berlin, un groupe informel qui m'accompagne. Donc je dis de textes avec ce groupe-là de jazz à Berlin, et puis j'ai un groupe en Autriche. Et donc je m'inspire beaucoup de la musique sud-africaine parce que sur scène je crée mon monde, j'invente, je renomme les choses, mais j'ai siffle aussi, parce qu'un musicien comme Doudou Pokwana sifflait beaucoup sur scène. C'est-à-dire que dans le free jazz sud-africain de Blue Note, qui est un de groupes mythiques, le sifflet était une récurrence. Donc je siffle beaucoup sur scène, et puis je dis mon monde, je chante, je crée, j'invente quelque chose de l'ordre de la poésie.
Mais il y a beaucoup d'énumérations, il y a beaucoup de répétitions, il y a des ruptures de construction aussi dans votre écriture, Fiston Bonza Mujila. Est-ce que vous diriez que vous avez une écriture rumba ou une écriture jazz?
Ben le deux, la rumba n'annule pas le jazz. Je pense que c'est sans de jumeaux, comme on dit, Omba na Chaco, Mbuyi et Kabanga. Donc ce sont des jumeaux, et donc voilà, des jumeaux, c'est des figures mythiques qui voilà. Et donc enfants à, comment on dit, on les appelle enfants à titre, c'est-à-dire que des êtres exceptionnels. Pour moi, la rumba nourrit mon imaginaire, le jazz nourrit mon imaginaire et ma personnalité.
Et la danse du vilain, vous n'avez pas écrit la partition avec vos amis musiciens?
Ben, le texte sera, on va porter le texte sur scène, sûrement.
Alors, c'est vrai que vous expliquez que, alors c'est compliqué, parce qu'il y a deux versions, hein, pour la danse du vilain. Il y a une version de 18 minutes et une version d'une heure 37, hein, c'est
ça? Ouais, mais je pense que c'est le propre de la rumba. Donc, vous trouvez des morceaux, un musicien de congolais, il peut, à partir d'une seule chanson, faire tout un concert. Il y a des morceaux comme de jazz, d'ailleurs, des morceaux de 20 minutes, 25 minutes. Il y a de morceaux de Franco de 18 minutes. Papa Wemba, par exemple, avec Anna Lengo, pouvait faire 12-15 minutes. Et par exemple, le concert de Papa Wemba au Japon, il a mis au Japon, c'est que son style-là de rumba rock. Et vous trouvez des morceaux de 15 minutes, 15 minutes de passion, 15 minutes de danse, de défoulement. Et donc, c'est comme si il créait son monde. C'est comme si quelque chose naissait. Et donc, pour moi, j'ai cette... Je vais dans cette lignée-là, parce que écrire, pour moi, c'est de l'ordre du mystique. C'est une religion, c'est une... quand j'écris, je suis emporté, je suis visité par les esprits, les petits esprits, parce qu'on dit souvent, dans ma religion d'où je viens, la création n'est pas encore finie, parce que le Vidu Mukulu, le dieu, qui est aussi appelé Mama Kanyeki, mère de Kanyeki, continue chaque matin et chaque soir à créer des esprits. Et donc, quand j'écris, je suis visité par ces esprits-là. Du coup, pour moi, l'écriture, c'est un voyage, c'est une immersion, c'est une traversée.
Et notamment, donc, vous êtes visité par l'esprit de Papa Wemba, que vous avez cité à plusieurs reprises, mais pas seulement. Vous le citez d'ailleurs dans le livre Papa Wemba à propos de l'habillement. Le style est une affaire de coup d'œil, et n'importe quelle guenille peut bien aller, à condition de savoir comment les agencer.
Ouais, Papa Wemba est venu apporter une touche à la sape, parce que pour lui, il disait, c'est le coup d'œil. Parce que c'est pas le fait d'avoir de l'argent de fringues à 10 000 balles, mais c'est d'avoir ce coup d'œil-là, c'est de savoir repérer la veste qui vous va, la chemise qui vous va. Et donc, moi, ça, c'est, je pense, c'est divin. Le fait d'avoir le tact, cette poésie. Et donc, pour moi, c'est ça, la sape. C'est pas seulement de vêtements démesurés, mais le savoir prendre le vêtement à votre goût, à votre taille. Et savoir aussi marcher, parce que la sape, c'est moins seulement porter, c'est marcher, c'est d'être élégant, c'est d'être bien coiffé, c'est de se faire coiffer, parfumer, et puis d'avoir... Et quand vous par exemple, sur scène, c'est un musicien qui était heureux, qui rigolait beaucoup, et donc la sape, c'est aussi la bonne vie.
Nous sommes page 80 de votre roman.
Ngungi chopa la malaria, retourna précipitamment en famille. Depuis les diffamations sur sa prétendue sorcellerie, il squattait à temps partiel chez ses grands-parents. Quand le train-train du toit familial le démangeait, il regagnait la rue. Leblanc et anarchiste, du jour au lendemain, devinrent aimables avec moi. Je n'avais jamais été l'objet d'autant de marques de sympathie. Ce n'était même pas de la sympathie, mais de l'idolâtrie. Ils me considéraient en adulte et responsable, me vénéraient, me qualifiaient d'aîné, de grand frère, de vieux père et d'oncle senza. Tout y passait. Ça m'enchantait, cette connaissance excessive de leur part, surtout après des mois de chichi. Ils m'invitaient à dîner avec eux, m'offraient des fruits et légumes, couraient me chercher de l'eau à la moindre quinte de tout, décriaient ouvertement leur chef, Ngungi, qu'ils traitaient de satrape, crétin, fou bourdon, mauvais coucheur, despote, lèche-cul, cannibale, néandertalien, marchand d'illusions, tartuffe, vendu, narcissique, fils à papa, pervers, mégalomane, plouc, clown, jaloux, pithécanthrope, vendu, mouchard, proxénète en devenir, bandit de grand chemin, vantard qui pisse dans son froc, marabout, catastrophe naturelle, cinglé, tête de navet, méchant garçon, macho, profiteur. Il nasillait des rêves, des projets et autres chantiers de vie qu'il cajolait. Leblanc confirmait son imminent déménagement pour les États-Unis alors que son collègue jurait de finir directeur général de l'Union minière. Et il ressassait des habillages à des années-lumière de la vérité.
On va rester dans l'habillage, justement, Fiston Mwanza Mojila. Là, les mots qu'on a entendus, notamment dans cette énumération, c'est absolument formidable. Vos mots, ce sont pas des guenilles, là, pour reprendre la phrase de Papa Wemba. Vos mots sont plutôt des habits du dimanche. Vous les travaillez, vous les cherchez, vous ne prenez pas n'importe lesquels, vous les gardez dans un tiroir et vous les jetez dans la phrase au bon moment.
Ouais, c'est dire que le fait de ne pas vivre dans un pays francophone fait de moi un écrivain de langue française. C'est ce rapport-là que j'ai à la France, à la langue française. J'écris en français, mais je ne pratique pas la langue. Donc, du coup, pour ne pas oublier, parce que les mots, c'est perdre. C'est perdre. Pour ne pas oublier la langue, je suis toujours obligé d'avoir un répertoire de mots. J'ai de gros cahiers dans lesquels j'écris comme ça chaque jour une vingtaine de mots, une centaine de mots. Quand j'écris chaque jour un poème. Quand je n'ai pas d'inspiration, je prends n'importe quel livre de Camus, Sartre, je sais pas, Mabankou, Jean Bouffan, Samy Chaka. Je recopie deux pages pour avoir cette fraîcheur-là, parce que les mots, c'est des plantes. Il faut les arroser, ils ont besoin du soleil. Et du coup, mes mots viennent de là, donc, parce que je vis avec ce mot. Pour moi, c'était un peu de la nourriture.
Pour Franz, hein, donc cet écrivain autrichien qui se retrouve dans le chaudron du mambo de la fête et dont vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, une sorte de figure inversée, hein, Fiston Mwanza Mojila, pour Franz, le roman, c'est avant tout la phrase. C'est aussi ce que vous pensez?
Ouais, moi je dirais que le roman, ouais, c'est la phrase, mais c'est aussi le vers. Ma poésie est le laboratoire de mes romans. Je ne suis pas romancier, je suis un poète qui écrit des romans. Pour moi, le roman est une aventure, alors que la poésie, c'est ma maison, c'est mon lit. Donc, je vis dans la poésie. Et donc, pour moi, je pense que tout commence par une phrase, et la répétition participe à cette magie dans la création d'un univers. Je peux juste vous donner un exemple. Quand je dis, par exemple, je suis enceinte depuis 100 ans, depuis 200 ans, depuis 10 000 ans, depuis 70 ans, depuis Lumumba, depuis Kabila père, depuis Kabila fils, depuis Mobutu, à partir de répétitions, j'invente une langue, j'invente Je trouve beaucoup de. Au fait, je fais de la langue quelque chose qui est proche, qui m'appartient.
Et quand vous écrivez, vous vous projetez aussi dans l'oralité, c'est-à-dire vous faites ce que vous venez de faire là sur RFI, c'est-à-dire que vous dites vos mots, vous les criez, vous les gueulez, comme disait Flaubert.
Oui, j'ai toujours cette habitude de dire quand après l'écriture ou même avant, j'ai dit le texte parce que je me considère aussi comme un écrivain oral.
La tradition orale. Je suis dans cette nourrit aussi votre écriture, évidemment.
Oui, du coup, mes textes ne sont pas finis parce que l'écriture, pour moi, est une prison. Les mots sont prisonniers de la phrase et mes textes sont finis quand je suis sur scène. Et puis, j'ai dit, par exemple, cette phrase qui débute Tram 83. Toutes les nuits n'avaient pas la même chronologie de la bière, de la musique, de la danse, de fimère, de la première frocheur, de bordel à base des chiens et de la foule. Non, le début c'est au commencement était la pierre, et la pierre, et la pierre, et la pierre provoqua la possession, et la possession la ruée, et dans la ruée débarque. Et donc voilà, donc je suis dans cette, j'ai dit le texte pour mon propre bien, donc déjà non pas pour un travail, pour mon propre bien, et puis le reste vient après, parce que pour moi le travail d'écriture c'est un travail, bon, comme écrivain, pour moi je me considère plus comme un mécanicien.
Ce travail, c'est un labeur, Fiston Manza Mogila, parce que Franz, quand il écrit en transpirant, en raturant sans cesse, il est incroyablement perfectionniste, il y a des phrases qui lui demandent 30 heures de concentration. Vous êtes comme lui?
Pour moi, je suis toujours... Mais là, je commence, je me calme. Mais de manière générale, je suis toujours insatisfait quand j'écris de la poésie. Surtout quand j'écris aussi la prose, je suis toujours insatisfait. Et pour moi, le travail de l'écrivain, c'est un peu le travail de la mine. C'est-à-dire que vous êtes toujours, même pendant des années. Parce qu'un un créseur, quand il entre dans un trou, il peut y rester des siècles. Vous cherchez. Et le travail de l'écrivain, c'est un travail physique. Moi, je me considère comme un créseur, mais aussi comme un mécanicien, j'essaie de réparer une guimbarde de 500 ans. Bon, il y a beaucoup de la fatigue, mais en même temps, comme quelqu'un qui fait du jogging, quand on est fatigué, et c'est là où vient le bonheur.
Yo mo bali ko finga mo asite o Yo mo ti ko finga mo bali na katia bari de To ko fingi mo bali Ya ko mona yo loko la zuba Ako lo bela yon tina nini Ya mama yu ya le kiye Finger mobile na kajabari te sheri mama e. Soko finger mobile ya komona yoro kola zuba e. Akoye bisayo tina na ye. Ama yuyu e ngoya mama e.
Antoine de Colossoy, Yoyo Ali Veka dans VMDN sur RFI avec Fiston Manzamoujila pour son roman La danse du vilain aux éditions Métellier, un roman que vous pourrez gagner dans une poignée de minutes d'ailleurs en répondant à partir de la page Facebook de VMDN à la question que je vous poserai. Vous citez cette chanson dans le livre, hein, Fiston Manzamoujila. Il y a un petit côté yodel, côté autrichien dans cette chanson congolaise.
Ouais, pour moi c'était... quand je commençais à travailler sur ce roman, c'était cette chanson m'est venue directement. Je voulais faire le lien entre la musique congolaise et la musique traditionnelle autrichienne. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Du coup, je me suis dit, donc je reste sur Yualeli Veka.
Voilà, donc vous voyez, donc vous parliez tout à l'heure d'ouverture, de porte. Donc je suis rentré par la porte, effectivement, et j'ai découvert ce rapprochement qui ne tombait pas, effectivement, sous le sens pour moi, en tout cas. Wendo Colossoy, c'est un artiste qui a cessé sa carrière en 65 suite au coup d'état de Mobutu et qui est revenu sur scène après son départ du pouvoir. Et c'est donc dans les années Mobutu que se déroule votre récit, qui a aussi une trame politique, en particulier à travers un personnage dont on n'a pas encore parlé, un certain Monsieur Guillaume. Alors, on ne va pas trop en dire de Monsieur Guillaume, mais tout de même, quelques mots pour le présenter.
Monsieur Guillaume, c'est un agent de service de renseignement. Voilà. Et puis, il fait bien son boulot.
Et il dit, les services de renseignement sont au pays ce que les reins sont à l'organisme. C'est la tuyauterie d'une nation. Que serait le Zaïre sans ses vaillants agents?
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ce roman, c'est aussi une tentative d'ouvrir, d'entrer dans les archives, parce qu'il n'y a jamais eu, les rôles de service de renseignement au pays est souvent tu. Alors qu'on sait qu'à l'époque d'Mobutu, ces services-là carburaient à plein temps. Et pour moi, quand je commence à travailler sur le roman, j'essaie de poser des questions aux aînés, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de la distance, quand je vous posais cette question, les gens sont réservés. Et bien, pourquoi je suis pas avancé dans mes recherches. Mais pour moi, c'était juste intéressant de faire ce coup de là au service des renseignements.
Ça veut dire que c'est encore une période qui, par bien des aspects, est taboue. Et tu, aujourd'hui, à Lubumbashi.
Et tu, parce qu'il se raconte que, il se raconte que pendant l'époque de la période de Mobutu, il y a eu beaucoup de disparitions. Il se raconte que des corps étaient, jetés au-dessus du fleuve. Il y a beaucoup de mythes autour du rôle de service de renseignement. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des services qui ne chômaient pas. Ils peuvent faire des agents de service de renseignement ne chômaient pas. C'était des gens qui étaient bien instruits.
Le fleuve. Le Zaïre n'était pas seulement un réservoir de rêves, les suicidés et autres contestateurs de la République y étaient balancés morts ou vivants, c'est ce que vous écrivez.
Oui, je pense qu'au Congo, par exemple dans le roman, il y a une récurrence de la disparition, il y a des gens qui disparaissent, et par exemple, il y a quelques années, on a découvert à Kinshasa, il n'y a pas 10 ans, une fosse commune à Maluku, et donc mais ces gens-là n'ont jamais été identifiés. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous comme ça au Zaïre et au Congo de Mobutu. Parce que pour moi, le Zaïre et le Congo de Mobutu, le Zaïre de Mobutu et le Congo sont deux pays différents, mais avec la même population. Il y a beaucoup de tabous. Et donc, pour moi, j'essaie de faire un coup d'œil et puis d'ouvrir les portes et puis d'aller prendre une bière et puis voilà.
Voilà, la face noire. Et en même temps, les couleurs, les cris et la danse du vilain qui apparaissent à chacune des pages de ce roman publié chez Métellier. Merci beaucoup,
monsieur.
Fiston Manzamoujila, d'être venu nous voir. Un livre que vous pouvez gagner, vous qui nous écoutez, du moins 3 d'entre vous, en répondant à la question du jour. Comment s'appelle l'écrivain autrichien qui se trouve dans le roman? On a donné son prénom à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Vos réponses en message privé, évidemment, uniquement et à partir de la page Facebook de l'émission. Une pause et le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Léonie Bischoff pour son album de bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges, album paru chez Casterman, et vous m'en direz des nouvelles. RFI.